Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington DC. Il est 19h30 temps universel, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 18 décembre 2018. Au sommaire ce soir, au Bénin, la Cour suprême est contre le retrait du droit de grève à certains fonctionnaires. Au Sénégal, le président ordonne la suspension des coupes de bois après le massacre de 14 personnes en Casamance. Au Tchad, le maire de N'Djamena est suspendu pour mauvaise gestion. Rencontre entre le président égyptien et le premier ministre éthiopien. Le barrage érigé par Addis Abeba sur le Nil Bleu inquiète beaucoup le Caire. Dans une dizaine de minutes, notre rendez-vous économique et les sports, mais d'abord le journal. Édition du jeudi 18 janvier 2018, vous l'avez bien compris. Au Bénin, la Cour constitutionnelle se prononce contre le retrait du droit de grève aux fonctionnaires. Longtemps attendu, la décision a été donnée ce jeudi suite au vote de la loi sur le retrait du droit de grève aux travailleurs des secteurs de la justice, de la santé et des forces de sécurité. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Les 7 sages de la Cour constitutionnelle viennent de déjouer tous les pronostics en se prononçant enfin sur la loi qui retire le droit de grève aux travailleurs qui se retrouvent sur leur table depuis le 2 décembre. La Cour pense qu'on ne saurait retirer le droit de grève aux travailleurs des corps cités, mais on pourrait l'encadrer pour empêcher les débordements fâcheux que ce genre de mouvement de débrayage occasionne souvent dans certains secteurs clés comme la santé où les gens perdent leur vie faute de soins. En votant cette loi, les députés pensaient faire preuve d'humanité en pensant à la population qui subit de plein fouet les affres des mouvements de grève sans service minimum. Il faut dire que depuis le vote de cette loi, l'administration publique est restée paralysée par une grève illimitée qui a pour but de forcer au retrait de cette loi qui, selon les travailleurs, est une véritable restriction des libertés. Le Conseil des ministres, mercredi, avait d'ailleurs pris acte de la situation sociale et décidé de suivre tout de près afin qu'il n'y ait pas de conséquences fâcheuses. Avec cette décision de la Cour, les 4 sont à nouveau redistribués. Le dossier est retourné sur la table des députés pour examen. Pour le moment, pas de réaction dans le rang des travailleurs. Mettront-ils un terme au mouvement de grève illimité déclenché? Les jours à venir situeront les populations et le gouvernement. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Au Sénégal, le président Macky Sall ordonne la suspension de toutes les autorisations de coupe de bois, alors que l'enquête sur le massacre de 14 personnes en Casamance se poursuit. Raissa Girondin.
Le président Macky Sall a donné instruction au gouvernement de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les autorisations de coupe de bois et de procéder sans délai à la révision du code forestier. Cette décision radicale fait suite à l'arrestation dimanche de 22 personnes dans l'enquête sur le massacre de 14 personnes qui cherchaient du bois dans la forêt protégée de Bayotte près de Ziguinchor. Pour le mouvement des forces démocratiques de Casamance, le massacre pourrait être lié à l'exploitation illicite du bois précieux. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'accélérer l'enquête pour mettre la main sur les auteurs de ces meurtres. Ouvert au dialogue et à la concertation, Macky Sall est pour un retour rapide de la paix en Casamance, en proie à une rébellion depuis 35 ans.
Dans le nord du Nigeria, les forces de sécurité ont été déployées pour tenter de retrouver les 2 Américains et les 2 Canadiens kidnappés mardi soir dans une embuscade. Les 4 expatriés étaient en route vers la capitale fédérale Abuja depuis Kafanchan, état de Kaduna, lorsque des hommes armés les ont enlevés après avoir tué leur escorte policière près de Djéré sur l'axe Kaduna-Abuja où les enlèvements sont fréquents. Au Gabon, l'opposant Jean Ping, convoqué comme témoin par la justice et interdit de quitter le territoire pour les besoins de l'enquête, a déposé une requête devant la cour d'appel de Libreville. Il juge illégal d'avoir été empêché samedi de quitter le Gabon. Le premier juge d'instruction a pris une mesure d'interdiction de sortie du territoire national manifestement illégale dans la mesure où il sait qu'une telle prérogative ne relève pas de sa compétence, affirme la requête envoyée à la cour d'appel de Libreville. Au Tchad, un comité d'action pour la libération d'un activiste tchadien emprisonné depuis 15 mois pour avoir critiqué le régime sur les réseaux sociaux a saisi aujourd'hui la cour d'appel de N'Djamena, selon le porte-parole du comité, Jean Bosco Manga. Ce comité veut obtenir la mise en liberté d'office de Tajeddine Mahamat Babouri en raison de sa détention abusive. Et toujours au Tchad, malversation financière à la mairie de N'Djamena. La maire et deux de ses adjoints ont été suspendus. Les précisions avec notre correspondant à N'Djamena, André Konmajingar.
Madame Mariam Djemé Ibet, maire titulaire, Atidjani Abdraman Nouren, maire premier adjoint, et Saleh Kouchi Zouglou, maire deuxième adjoint de la ville de N'Djamena, sont suspendus ce mercredi 17 janvier 2018 pour malversation financière sur instruction du chef de l'État Idriss Déby Itno peu avant son départ pour Paris. Selon le rapport de la mission de contrôle diligentée par l'inspection générale d'État dans cette institution en 2017, l'exécutif devrait être viré et poursuivi pour détournement des ressources financières de la mairie. Mais des sources concordantes indiquent que la mission aurait confisqué le dit rapport incriminant Mariam Djemé Ibet juste pour la maintenir à ce poste. Selon le personnel de la mairie de N'Djamena, si Madame le maire titulaire et le maire premier adjoint sont démis de leurs fonctions pour mauvaise gestion, Saleh Kouchi Zouglou, deuxième maire adjoint et lui, seraient impliqués dans la vente de certaines boutiques des grands marchés de la capitale aux grands commerçants. Entre-temps, des tractations commencent dans les coulisses. Qui des 30 conseillers va hériter la reine de cette commune? Toutefois, dominé par le MPS parti au pouvoir, le conseil pour la désignation du nouvel exécutif sera tenu que sur avis du président Idriss Déby Itno. André Kodmadingar N'Djamena, VO Afrique.
Au Burundi, le groupe parlementaire d'opposition Amizero Iya Burundi dénonce l'arrestation de plus de 40 de ses militants. Le gouvernement leur reproche de battre campagne contre le référendum avant l'ouverture officielle de la campagne. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn ont affirmé au Caire leur volonté d'éviter un conflit autour du barrage érigé par l'Éthiopie sur le Nil bleu et Kabadou.
C'est un signe clair pour nos peuples et le monde entier de notre volonté politique et la détermination à surmonter tous les obstacles, a assuré le président égyptien au premier ministre éthiopien en visite au Caire. Les deux hommes ont affiché leur volonté d'éviter un conflit sur la question de l'eau du Nil. Le Caire a toujours brandi les traités de 1929 et 1959 qui accordent près de 87% de l'eau du Nil à l'Égypte et au Soudan. Maintenant, l'Égypte craint que la construction du gigantesque barrage de la Renaissance sur le Nil bleu entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend pour son approvisionnement en eau. Le Caire, Khartoum et Addis Abeba ne sont jamais parvenus à se mettre d'accord sur les conclusions d'un rapport technique de deux cabinets français sur les impacts sociaux et environnementaux de ce barrage. Le barrage de la Renaissance, situé sur le Nil bleu, est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les parlementaires ont jusqu'à demain minuit pour trouver un accord sur le budget. Il y a de nombreux obstacles à surmonter pour éviter une paralysie de l'administration fédérale. Le point avec Anastasie Tudiech.
Les républicains majoritaires au Congrès veulent avoir un budget 2018 qui dope les dépenses militaires. Mais les démocrates souhaitent régler la question des près de 700 000 jeunes venus illégalement aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants. Les républicains sont globalement d'accord pour les régulariser en échange d'un vote de crédit pour ériger le mur promis par le président américain à la frontière avec le Mexique et d'autres mesures anti-immigration. Un vote pourrait avoir lieu ce jeudi à la Chambre, mais au Sénat, la minorité démocrate peut tout bloquer. C'est une course contre la montre qui est engagée pour trouver un compromis sur le budget d'ici à demain minuit. Avec des élections de mi-mandat prévues en novembre, les républicains sont conscients des dégâts politiques d'une mise en chômage technique de l'administration fédérale.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco avec Eric Manirakiza.
La Banque africaine de développement recommande à l'Afrique d'investir massivement dans ses infrastructures pour accélérer sa croissance économique. La BAD a identifié l'électricité, l'eau, les transports, la santé et l'éducation comme des besoins prioritaires. L'Afrique doit réunir annuellement entre 130 et 170 milliards de dollars pour s'industrialiser, éliminer la pauvreté et créer des emplois pour sa population active. En 2016, les investissements n'ont atteint que 62 milliards de dollars. L'Afrique de l'Est demeure la sous-région la plus dynamique. En Tunisie, les 30 milliards d'euros d'investissements promis en 2016 ne sont pas encore traduits par des projets tangibles. Le pays connaît une inflation continue. Les prix ont grimpé de 6% en 2017 sur fond de dépréciation de la monnaie et de hausse des impôts. Les 11 millions de Tunisiens sont à bout de patience. Le géant américain de la smartphone Apple a décidé d'investir directement plus de 30 milliards de dollars aux États-Unis dans les 5 ans et créer plus de 20 000 emplois supplémentaires. Le fabricant de l'iPhone emploie déjà 84 000 personnes aux États-Unis. Apple va aussi payer 38 milliards de dollars sur ses bénéfices réalisés à l'étranger en raison de la réforme fiscale.
Les pleins feux sur les stades, à mes côtés, Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
La Côte d'Ivoire éliminée du CHAN 2018.
Tout à fait Morgane, grosse surprise, hein, battue d'entrée de jeu par la Namibie 1-0. Les éléphants locaux devraient à tout prix l'emporter pour rester dans la course à la qualification. À Marrakech, face à la Zambie, les éléphants locaux sont tombés 2-0. Un doublé d'Augustine Moulenga a envoyé les Chipolo Polo en quart de finale. La deuxième rencontre de ce groupe B se joue présentement entre la Namibie et l'Ouganda. 0-0 pour le moment, après près d'un quart d'heure de jeu.
Le Maroc et le Soudan ont décroché hier leur ticket pour les quarts.
Face au Sili National de Guinée, les Lions de l'Atlas ont pu compter sur leur public du stade Mohamed 5-3-1. Ayoub El Kabi avait ouvert le score à la 27e pour les Marocains. Saïdouba Bissiri Camara égalise dans la foulée pour le Sili National. El Kabi est revenu à la charge à deux reprises en deuxième mi-temps. Satisfaction pour cette victoire et cette qualification à domicile de Jamal Selami, sélectionneur du Maroc.
Le fait qu'on ait gagné aujourd'hui, il y a beaucoup de causes. La première, c'est qu'on est joueurs. Ils ont l'habitude de jouer fréquemment, des matchs à répétition. Les joueurs du Wydad, ils jouaient dimanche, mercredi, dimanche. Les joueurs du FUS, les joueurs du Raja. Je pense que les joueurs de la Guinée n'ont pas cette habitude-là. Je pense que on a bien préparé par rapport à l'équipe guinéenne.
C'était donc Jamal Selami, sélectionneur des Lions locaux de l'Atlas. En revanche, déception pour l'AP Bangoura, le sélectionneur de la Guinée.
Vous voyez le match surtout en première mi-temps, vous comprendrez que nous avons corrigé beaucoup d'erreurs parce que quand vous comparez cette équipe du Maroc à celle du Soudan, je pense en puissance de jeu et puis en rapidité. Sur l'imprécision, le Maroc est un peu au-dessus du Soudan, mais nous avons pu contrer, on a réagi. Je crois qu'on a pu à un moment donné imposer notre jeu. À la reprise du match de la deuxième mi-temps, je crois le but que nous avons offert a joué sur le plan mental, psychologique.
L'AP Bangoura, sélectionneur du Sili National, il a été limogé aujourd'hui même pour insuffisance de résultats par la Fédération guinéenne de football. Dans le deuxième match de la soirée d'hier, la Mauritanie s'est inclinée face au Soudan 1-0. Les Soudanais se qualifiaient pour les quarts de finale. Les Mourabitounes, eux, sont éliminés de ce tournoi, tout comme la Guinée. Déception du sélectionneur Corentin Martins.
Autant ce soir, je peux rien leur reprocher. On a essayé de jouer vers l'avant, de leur poser des problèmes aux Soudanais. On s'est créé beaucoup plus d'occasions que le Soudan, je pense, ce soir, sans être efficace. Et dans le football, il faut savoir justement trouver cette efficacité défensivement comme offensivement. Et nous, sur une erreur de notre part défensive, on prend ce but.
C'était donc le sélectionneur de la Mauritanie, Corentin Martins. Demain, le Rwanda affronte la Guinée équatoriale. La Libye pourrait se qualifier dans le groupe C en cas de succès dans le choc face au Nigeria.
Cyclisme pour terminer. Victoire d'étape rwandaise aujourd'hui sur la Tropicale Amissa Bongo.
Joseph Areruya a ravi le maillot jaune à l'Australien Bedon Jones au terme du sprint final après les 182 km de course, la plus longue étape de la tropicale. La cinquième étape mènera demain le peloton d'Oyem dans le nord du Gabon à la ville camerounaise d'Ambam, 141 km.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Diriek, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. En RCA, la tension reste vive dans le quartier musulman du PK5. Les commerçants du secteur ont demandé aujourd'hui aux autorités de mettre hors d'état de nuire les groupes d'autodéfense. Réaction à l'incendie hier d'une quinzaine de boutiques par des hommes armés dans le Grand Marché et à une fusillade provoquant 2 morts et 10 de blessés. Freeman Sipila.
En guise de protestation, la quasi-totalité des boutiques n'ont pas ouvert leurs portes ce jeudi dans le Grand Marché. Tous les commerçants se sont réunis à la mairie du 3e arrondissement pour prendre une décision ferme. Ils exigent le démantèlement de tous les groupes armés se réclamant autodéfense du secteur. Abdoul Salam, leur porte-parole.
Donc nous avons demandé, c'est-à-dire il faut traduire ces auteurs des crimes devant la justice, ce que les commerçants ont demandé. Et deuxièmement, les commerçants demandent aussi à la MINUSCA et au gouvernement de ne plus voir ce qui dit le base pour les autodéfenses dans le PK5. Voilà ce qui a été dit. Il n'y aurait pas de groupe de défense dans le PK5, voilà. Dans les cas échéants, donc, nous allons mener une démarche plus approfondie que ça.
Les commerçants envisagent par ailleurs la cessation de toute activité ce vendredi pour insister sur leurs revendications. Décision saluée par Al Ghoni, conseiller à la mairie du 3e arrondissement.
Ceux-là, ce ne sont pas d'autodéfense, ce sont des bandits. Donc pour le déloger, c'est légal. C'est une décision légale. C'est une demande pour le commerçant, c'est une demande légale. Merci. Parce que nous avons vraiment demandé ça plusieurs fois, mais ça n'a pas été abouti.
Même à la mairie, on en a opposé 50 plaintes. Là, c'est même le tribunal, la gendarmerie, tout ça là, contre ces bandits.
Au cours de la fusillade qui a éclaté mercredi suite à une bagarre, les hommes armés dits autodéfense du secteur ont brûlé près d'une vingtaine de boutiques. Un acte inhumain, déplore Bernadette Mboulou, députée du 3e 1. Elle appelle le gouvernement et la MINUSCA à prendre leurs responsabilités face à ces agissements.
Nous ne pouvons pas continuer dans ce sens. Parce qu'on a trop souffert. C'est une histoire qui perdure depuis 5 ans. Et les fils de cette circonscription, ils en meurent presque tous les jours. Et je demande au gouvernement de vraiment écouter ce que je suis en train de dire. Qu'ils soient attentifs. Parce que c'est leur gestion. Vous voyez, le kilomètre 5, c'est le poumon de l'économie du pays entier. Et le gouvernement, il sera obligé d'intervenir. Parce que s'il n'intervient pas, et si ces gens-là qui ont tout perdu, s'ils n'exercent plus, c'est un manque à gagner.
Face aux agissements des groupes armés, certains habitants s'interrogent sur le rôle des casques bleus, qui pourtant sont les seuls autorisés à veiller sur ce secteur en plein cœur de la capitale. Cet habitant est indigné.
On a fait une sondage ici, on avait vu que tous les restes des arrondissements sont aux mains de l'État et nous avons vu qu'il y a la sécurité, il y a la paix, il n'y a pas ces heures de désordre. Mais notre arrondissement étant dit dans la main des Nations Unies, nous voyons toujours de désordre. Nous soutenons ceci. Il faut que l'État vienne à notre soutien. L'État n'oublie pas que nous sommes aussi des Centrafricains.
Pour sa part, la MINUSCA affirme que des dispositions sont prises pour renforcer non seulement la sécurité dans le PK5, mais dans toute la ville de Bangui. Les pertes liées à l'incendie de magasins mercredi au PK5 sont estimées à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Freeman Sipila, Bangui, VOA.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
En Côte d'Ivoire, les indemnités des députés pourraient bientôt être revues à la hausse, 500 000 francs CFA de plus. Le reportage d'Ibrahim, Georges Ibrahim Tunkara.
Dans les couloirs de l'hémicycle ivoirien, si certains députés se refusent à tout commentaire sur la question, d'autres en revanche, sous le couvert de l'anonymat, confirment l'information qui circule depuis quelques jours dans la presse et sur les réseaux sociaux. Oui, nous avons négocié avec l'exécutif une revalorisation de nos indemnités en vue de pouvoir faire face aux nombreuses sollicitations des populations, dit un député que nous avons rencontré. La mesure n'est pour l'instant pas effective, mais elle choque déjà de nombreux Ivoiriens.
Ils connaissent les besoins de la population et ils sont en train de se suffire le doigt en augmentant leur salaire et ils regardent la population mourir. Donc je ne vois pas l'utilité de cette hausse des indemnités là. Je ne vois pas l'utilité. En Côte d'Ivoire, les répartitions sont mal faites. C'est pourquoi nous souffrons tous.
Mais il faut qu'on tienne compte de la population elle-même. Puisque depuis un moment jusqu'à ce matin encore, on nous dit que le riz a augmenté. Vraiment qu'on pense à la population, sinon vraiment c'est une petite déception.
Bon, on ne pense pas à la population, ils pensent à leur bien-être, ça me déçoit un peu. Parce que la population, on ne mange pas à notre faim, tout est cher sur le marché. Et puis ils pensent à leur augmentation, pourtant ils ne pensent même pas à la population.
Certains activistes de la société civile se disent également choqués par cette requête des députés. Innocent Yelbin, président de l'Initiative ivoirienne pour la démocratie et le développement.
Le problème de la population de Côte d'Ivoire, c'est que la qualité de vie des populations a baissé. Le problème, c'est la question de l'emploi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de visibilité en termes effectivement donc de santé, d'éducation et du pain en Côte d'Ivoire. C'est cela le véritable problème. En tant que député, en tant que représentant de la nation, ce qu'on attend d'eux, c'est d'aider, n'est-ce pas, à l'adoption de lois qui puissent permettre de faire régresser donc le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, de faire régresser le chômage en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on attend des députés de la nation. Mais on n'attend pas les députés de la nation qui disent que non, donnez-nous 500 000 francs pour que nous, on aille aider les gens ici et là. Quand on sait qu'aider les gens de cette manière ne peut pas résoudre fondamentalement le problème. Le problème est mal posé.
Pour l'ancienne ministre et ancienne députée Daniel Boni-Claveri, le moment de cette augmentation est simplement mal choisi.
Vraiment, le moment est inopportun. Parce que au même moment où les députés se donnent un salaire ou une indemnité avec une augmentation de 500 000 francs, ce sont les mêmes qui ont voté l'annexe fiscale qui, elle, augmente la TVA sur un très grand nombre de produits, ce qui va avoir pour conséquence une flambée des prix, une hausse du coût de la vie et en même temps un climat social qui va se durcir.
Le Parlement ivoirien compte 255 députés. Si cette augmentation de 500 000 francs est entérinée, chaque parlementaire touchera un peu plus de 2 600 000 francs CFA par mois comme traitement salarial. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les habitants du Cap devront réduire de 40% leur consommation d'eau à compter du 1er février. C'est ce qu'a annoncé la maire de la deuxième ville d'Afrique du Sud. Une mesure drastique face à la pire sécheresse qu'a connue la ville depuis un siècle. Le point avec Saloua Jafari.
C'est sur un ton résolu que la maire de Cape Town, Patricia de Lille, a annoncé les nouvelles mesures lors d'une conférence de presse.
À ce stade, nous devons supposer qu'ils ne changeront pas leur comportement. Les chances d'atteindre le jour zéro le 21 avril sont très vraisemblables. Nous ne pouvons plus demander aux gens d'arrêter de gaspiller l'eau. Nous devons les forcer à arrêter de gaspiller l'eau.
Si ces restrictions ne sont pas respectées et si la région n'enregistre pas de précipitations conséquentes, l'eau ne coulera plus au robinet à compter du 21 avril et la population sera contrainte de faire la queue à des points de distribution d'eau. À partir de février, les habitants devront donc limiter à 50 litres leur consommation quotidienne d'eau contre 87 actuellement. Pour les habitants de Cape Town, qui attirent plus de 2 millions de touristes par an, l'enjeu est de taille. Jeff Levy est propriétaire d'un hôtel.
Il y avait d'autres pays dans le monde qui ont prouvé qu'il y avait d'autres manières de faire face à la sécheresse.
Ce qu'Israël a fait dans les déserts en matière de désalinisation, l'Inde est aussi un pays qui s'en sort très bien.
Dans une station d'essai, les résidents remplissent leurs bouteilles d'eau. La pression est palpable.
Nous devons absolument faire notre part et utiliser le moins d'eau possible. Mais j'espère que le gouvernement fera quelque chose pour empêcher le jour zéro, car ce sera une crise nationale. Ce sera honnêtement horrible. Nous ne pouvons plus nous baigner, nous ne pouvons pas. Nous ne devons pas nous doucher. Et tous les deux jours, nous prenons une douche pour économiser de l'eau.
En moyenne, 15 litres d'eau sont consommés pour une douche d'une minute ou après avoir tiré la chasse d'eau. Le conseil municipal doit également approuver vendredi une augmentation des tarifs de l'eau pour les contrevenants. Depuis le début de 2016, la consommation d'eau du Cap a été réduite de presque la moitié, mais elle stagne désormais à environ 620 millions de litres par jour, soit 100 millions de litres au-dessus de l'objectif fixé par la municipalité. Toute l'Afrique australe a subi ces dernières années une très forte sécheresse aggravée par le phénomène météorologique cyclique El Niño. Mais de très fortes pluies ces derniers mois ont permis à l'essentiel de la région de refaire ses précieuses réserves d'eau.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Joselle Morissin, présentation Morgane Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville sur 101.9 FM. À Lomé 99.5 FM. 92.9 FM. Bahia, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
La traite des personnes, également connue sous le nom d'esclavage moderne ou traite d'êtres humains, est un crime mondial rapportant plusieurs milliards de dollars et lié à des flagrants abus de droits de l'homme, prive les individus de leur liberté. Elle fragmente les communautés, menace la sécurité publique et nationale, fausse les marchés économiques et sape la primauté du droit. Elle nourrit la corruption, alimente d'autres activités criminelles et aide à financer des activités terroristes. L'Organisation internationale du travail estime que 24,9 millions de personnes en sont victimes dans le monde. 16 millions d'entre elles sont exploitées par le travail forcé, près de 5 millions par l'exploitation sexuelle et 4 millions par le travail forcé imposé par l'État. Aucun pays au monde n'est à l'abri de la traite d'êtres humains. Cela se passe dans tous les coins du globe, dans les domiciles, les usines, les hôtels, les fermes, les bateaux de pêche, dans d'innombrables endroits où l'on ne pourrait pas s'y attendre. La traite d'êtres humains a également lieu aux États-Unis. Cela signifie que si nous voulons combattre ce fléau, nous devons commencer chez nous. C'est pourquoi janvier est proclamé, par décision présidentielle, Mois national de la prévention de la traite d'êtres humains. Le président Donald Trump a poursuivi cette tradition en déclarant dans sa proclamation que les trafiquants d'êtres humains exploitent leurs victimes en leur promettant une vie d'espoir et de plus grandes opportunités, mais ne les livrent qu'à l'esclavage. Au lieu d'accorder aux gens une vie meilleure, les trafiquants profitent sans juridiction du travail et de la peine de leurs victimes qu'ils forcent par la violence, par l'intimidation, à travailler dans des maisons closes et des usines, dans des fermes et sur des bateaux de pêche, dans des maisons privées et des nombreuses industries. Le président a également souligné que pendant le mois national de la prévention de l'esclavage et de la traite d'êtres humains, nous nous engageons à éradiquer le fléau de l'esclavage. La traite d'êtres humains est une forme moderne de type d'exploitation le plus ancien et le plus barbare. Il n'a pas sa place dans notre monde. Ce mois-ci, nous ne pensons pas simplement à cette effroyable réalité. Nous nous engageons également à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à l'horrible pratique de la traite d'êtres humains qui afflige d'innocentes victimes dans le monde entier.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue à bord.